continuons la biographie. Bon, on va pas faire une biographie détaillée, c'est surtout le personnage et son œuvre qui nous intéresse, mais il faut quand même le situer dans le temps et puis connaître sa vie, parce que la vie, le vécu, l'expérience nourrit hein, l'œuvre d'un écrivain, bien sûr, donc d'un romancier en particulier. Donc en 1819, il a pris sa décision, il abandonne le droit et il décide d'être écrivain. Son père, donc, à la même époque, prend sa retraite à 73 ans et la famille quitte Paris pour Villeparisis. Et donc, notre Honoré reste à Paris. Il va vivre dans une mansarde. Hein, donc ses parents vont l'aider. Son père va l'aider, mais son père lui laisse 2 ans hein, pour se révéler, voilà, pour percer en littérature. Donc voilà, il habite 9 rue des Guières. Voilà. Et il va donc commencer par des œuvres, mais alors ce sera difficile. Ça ne va pas exploser tout de suite, son génie. Il y aura des œuvres de jeunesse qu'il va d'ailleurs faire paraître avec des pseudonymes, parce qu'il n'en est pas très satisfait. Ça sera un petit peu de la littérature alimentaire, la littérature un peu facile, notamment des feuilletons qui à l'époque qui paraissent dans les journaux, comme on sait Eugène Sue par exemple, ou donc les œuvres paraissent, Sainte-Beuve, et puis Georges Sand aussi, paraissent dans des revues, à épisodes, dans des journaux. Et donc là, mais c'est pas quand même, c'est juste des débuts, hein, des débuts un peu aléatoires, incertains. Vers 1822-1827, par exemple, il écrit Horace de Saint-Aubin, Cromwell, voilà. Mais il se cherche. Et d'ailleurs, il est un peu dégoûté par ses livres un peu faciles, hein, ses livres peut-être pour jeunes filles, enfin, voilà. Donc, il abandonnera plutôt que de rester sur cette voie de médiocre, même si ça... s'il peut en vivre. Hein. Et donc il va faire ça sera une autre facette de sa personnalité, mais alors là, ça sera le ratage complet. Il voudra s'improviser homme d'affaires, entrepreneur. Alors il va lancer toutes sortes d'entreprises. Par exemple, en 1826, il se fait éditeur, et puis imprimeur, et puis il a une entreprise de typographie. Alors là, ça ne fonctionne pas du tout. C'est des faillites successives. Il a des dettes abyssales. On cite 100 000 francs de l'époque, enfin. Très important, et il a aussi des rêves, c'est un rêveur, on le sait, il n'a pas bien les pieds sur la terre, il est parfait hein, pour les affaires. Et donc par exemple, ça va jusqu'à transformer le rêve en réalité. On cite l'anecdote, il avait tellement ingéré l'idée d'avoir une écurie avec des chevaux arabes, qu'il a fini par y croire, au point d'offrir un cheval arabe, qui n'existait que dans son imagination, à un ami. Oui, il y croyait tellement fort, il voulait restituer les mines d'Alun, enfin A-L-U-N, je crois. Bon, je sais plus quel type de mine, enfin peut-être en Italie. Je sais pas. Et puis il voulait restaurer, ça paraît farfelu, exploiter des ananas en France, les acclimater. Enfin, tout ça, c'était du rêve éveillé. Mais dans tout ce qu'il entreprend, donc c'est un échec monumental. Alors parallèlement, des emplois alimentaires, alors il est journaliste, on verra qu'il sera journaliste, critique, essayiste, moult facettes à sa personnalité, et y compris dans ses romans, on le verra, il y a des romans, quand il va réussir brillamment, alors le génie, hein, plus que le talent, il y aura des romans fantastiques, il y aura un peu de romans policiers, si on peut dire, fantastiques, des romans philosophiques, des romans d'aventure, historiques, etc., dans tous les genres. Hein. Alors, en attendant, il donne des papiers à la Silhouette, hein, c'est des journaux de l'époque, la Caricature, la Chronique de Paris, voilà. Mais il va bientôt, vers 1826, alors... le génie va sortir de sa gangue, on va dire, et il va faire paraître ce qui s'appellera Les Chouans. C'est un de ses grands romans, qui l'appellera initialement sous un autre titre. Hein. Voilà. Enfin, bon, mais le dernier des Chouans, mais bon, ça deviendra Les Chouans tout court, et là, ça signifie qu'il n'a plus... Enfin, il n'avait pas honte, mais il était un peu gêné, peut-être, par ses œuvres initiales, ses œuvres de jeunesse médiocres, enfin... ou très moyenne. Là, il va signer pour la première fois Honoré de Balzac. ils l'ont signé. Puis alors d'autres titres suivront, comme les scènes de la vie ou scènes de la vie privée ou physiologie du mariage. Voilà. Là, on sent que c'est le grand Balzac qui est né vers 1826-29. Il a 29 ans. Voilà. Il est présenté. C'est peut-être un petit indice, mais enfin, je ne sais pas. Juliette Récamier, il en est fou de joie. Il a un côté enfantin. Juliette Récamier, c'est une légende aussi. Elle était l'amie amante, mais peut-être purement platonique, de Chateaubriand. Elle reçoit dans son salon donc les grands de la littérature de son temps. Voilà. Et donc, il a une espèce de joie enfantine, c'est un peu une consécration. Voilà. Et bien, les grandes œuvres vont suivre très vite. Vers 1832, par exemple, le colonel Chabert. Alors, Les Chouans, je l'ai dit, c'est un beau roman qui se passe dans le... Bon, c'est absurde de le dire. C'est un grand, magnifique roman, monument de la littérature, parmi tant d'autres, de Balzac. C'est un conflit entre deux femmes, notamment une belle-mère et une belle-fille, mais alors dans l'aristocratie bretonne. Hein. Alors là, c'est pas le vaudeville, c'est pas du tout. C'est des grands formats de personnages féminins, hein, de grandes personnalités. C'est pas des pipelettes, on dirait. Alors le colonel Chabert, vous avez peut-être vu le film aussi, le colonel Chabert avec notamment Depardieu. Il y en avait eu un, c'est avec un vieux film. Avec un acteur dont le nom ne me revient pas, qui est pourtant hyper connu. Donc là aussi, c'est un drame, un homme qui réapparaît, qu'on a cru mort, et qui est trahi par sa veuve, qui tente de le faire interner, enfin, etc. Le curé de Tours, qui vise la bourgeoisie étriquée, notamment dans le milieu des catholiques, on dirait un peu calotin, de Tours. C'est un bon curé qui est victime. D'ambition adverse. Eugénie Grandet, il y aura 90 romans et nouvelles, je l'ai dit. Eugénie Grandet, c'est la fille d'un homme riche. Là aussi, c'est à Tours. Et au départ, elle aime son cousin, c'est un amour très pur. Et puis, son père la tient chez elle, c'est un riche, avare. Il la tient, il refuse qu'elle se marie. Puis, à la mort de son père, elle s'aperçoit que son cousin l'a oublié. Cet amour si pur, elle va devenir aussi dure, elle aussi, elle va devenir comme son père presque. Voilà, c'est des silhouettes, des portraits psychologiques bien marqués aussi dans leur temps, dans cette bourgeoisie du temps de Luffy. Le père Goriot, alors le père Goriot, eh bien c'est un homme qui se sacrifie pour ses filles, riche. Peut-être pas un agioteur, mais enfin, un riche homme d'affaires qui fait du commerce sur le blé, sur la farine, et il va se ruiner pour ses filles. C'est le père Pélican. Elles laisseront mourir, agoniser et mourir seules. Elles l'abandonnent totalement. Il y a Splendeur et misère des courtisanes, mais on ne peut pas tout citer. Hein. Bien sûr, le Lys dans la vallée, la femme de 30 ans, Rastignac, qui est le symbole de l'ambitieux. Hein. Qui va peut-être inspirer Bellamy de Guy de Maupassant. Voilà. Donc, tous ces personnages, plus de 2000 qu'il va créer. Et donc, pour se rappeler des uns et des autres, et de leur psychologie, il crée des petites poupées. Hein, voilà. Ils ont des poupées costumées avec leur nom. Quoi, voilà. Alors, Eugénie Grandi, je l'ai dit, le père Goriot, Rastignac, Vautrin. Vautrin, c'est un ancien. Il est sorti du bagne. Enfin, ça évoque peut-être aussi Hugo, le personnage de Jean Valjean. C'est des personnages qu'on retrouve, je répète, d'un roman à l'autre. Rubin Pré, le jeune étudiant qui vient à Paris, etc. Ils sont très vivants. Ils ressuscitent vraiment une époque. C'est à la fois un anthropologue, un Balzac. Il donne à ces personnages, c'est comme un film vivant de son temps. Ils sont encore une fois incrustés dans cette époque, mais plus que des données historiques, de sociologues froides et mortes, là, ils font revivre carrément une époque. En 1842, donc il écrit un avant-propos de la première édition de la Comédie humaine, donc il regroupe, je l'ai dit, tous ses romans, nombreux, et ces personnages dans une espèce de réseau, tout est lié, qu'il appelle la comédie humaine. Au départ, il y avait un volume. Et donc, et puis vers 1845, il va structurer 37 romans à peu près. Donc, avec ça sera organisé, il y aura sous trois sous-titres, on va dire, ou trois parties, les études de mœurs, études philosophiques, études analytiques. Bon. Et donc, cette œuvre gigantesque, qui vit toujours aujourd'hui, et ces personnages qu'on croit vrais aujourd'hui encore, hein, toutes ces silhouettes qui se croisent, qui se rencontrent. Là. Alors, dans la prochaine chronique, je parlerai peut-être plus spécialement de Balzac avec les femmes qui ont eu de l'importance. D'abord, il y a eu sa sœur, Laure, je l'ai dit, et puis d'autres femmes, notamment, je veux dire, de l'aristocratie, hein, Laure d'Abrantès, en fait, etc. Je les citerai un peu. Qui ont été ses inspiratrices autant que ses amantes. Et alors, cette correspondance, j'en ai parlé, nous l'avons évoqué dans l'intermède, avec Eveline Hanska, la riche polonaise. Ils se rencontreront, donc c'est là où se situait notre intermède, que vous avez entendu, en 1833 à Paris. Puis il y aura d'autres rencontres. Ils deviendront amants, alors je crois, lors d'une rencontre. Il ira, me semble-t-il, en Pologne, on y reviendra, il se rencontrera en Neuchâtel, en Suisse, etc. Et bien sûr, malgré la présence du mari, eh bien, ils auront une liaison, et ils s'épouseront en 1850 seulement, et peu avant sa mort, en mars 1850, puisque Balzac va mourir le 18 août 1850. Et d'ailleurs, Eve Hanska pose peut-être question, s'interroge sur le personnage. Apparemment, elle n'a pas été fidèle. Il y a une légende noire un peu sur elle. Voilà. Et donc, concernant son œuvre, eh bien, elle est. Je dis, c'est un feu d'artifice. Il œuvre dans tous les domaines. Il y a la critique littéraire, les essais, le journalisme. Et puis, alors, les genres, j'en ai parlé, philosophique, fantastique, poétique, réaliste. C'est vraiment le réalisme un peu à la Zola. Mais il parle peu des ouvriers, lui. C'est plutôt, je répète, la bourgeoisie. Et puis l'aristocratie, aussi bien impériale que issue des Bourbons. Cette aristocratie qui tombe, qui ne s'adapte pas, qui décline, qui ne sait pas s'adapter en son temps. Hein. On a vu, par exemple, à propos de notre cycle sur le Second Empire, en 1850 et 1870, il y a eu l'apogée de la bourgeoisie, des affaires, des banquiers. Et donc là, déjà, c'est dès Louis-Philippe, 1848, et eh bien 1831-1848, c'est aussi le triomphe de la bourgeoisie, de la spéculation, des affaires. Voilà. Et donc, eh bien, Balzac met en scène tout ça, c'est aussi un visionnaire, il n'est pas objectif, hein. Il est critique, il critique l'état de son époque et de ses personnages. Voilà. C'est pas simplement un anthropologue, il donne de la vie, de l'âme à ses personnages, ils sont pas tout mauvais, tout bon, il y a du bon et du mauvais chez tous et chez chacun. Et donc dans son avant-propos à la comédie humaine, il se compare, il y a une métaphore peut-être avec Buffon qui était le scientifique du XVIIe siècle, ou du XVIIIe siècle plutôt, dans la zoologie, hein, dans les espèces animales. Donc lui, il est l'entomologiste des espèces sociales, voilà. Il parle, entre guillemets, d'écrire l'histoire oubliée par tant d'historiens, celle des mœurs. Et puis, tant qu'histoire vivante, c'est comme un film, une expression aussi un peu étrange, mais enfin, il déclare vouloir faire concurrence à l'état civil. Donc, c'est un vrai historien, mais un historien qui donne du souffle et de la vie à ses personnages. Donc, nous avons évoqué un peu l'œuvre. On va faire aussi un portrait, hein, de Balzac. Qui était-il? Alors, on verra que là, il a 1000 ou 2000 visages, autant de ses créatures qu'il habite, à qui il donne souffle. Mais pour ses contemporains, les témoignages sont contradictoires. Voilà. Il est difficile à saisir. Donc nous allons le retrouver après notre deuxième intermède. Hein. Donc c'est aussi un intermède de parler, on va dire. Hein. Et donc là, ça se situe dans le Père Goriot, l'histoire du Père Goriot, c'est la pension de famille. Alors j'ai oublié le nom de la maîtresse de maison, Beaucaire, ou un nom dans ce genre, quoi. Où là, on retrouve beaucoup de personnages, y compris du roman Le Père Goriot, je l'évoquais, qui se sacrifie pour ses filles indifférentes, mais aussi on y retrouve de nombreux personnages de l'œuvre qui arrivent, il y a Rastignac, etc., et qu'on découvrira aussi dans d'autres romans, Vautrin et les autres, qui se retrouvent dans cette pension de famille. Voilà. Nous nous retrouvons donc après cet intermède qui se situe, qui concerne dans le cadre du roman Le Père Goriot.